Bonjour, nous lisons à partir des écrits du Rabash, l'article 29. Quelle est la préparation pour recevoir la Torah dans le travail? Eh bien, dit Rav, je ne sais pas quoi dire. C'est un si grand congé. Et qui s'ouvre maintenant devant nous. Il n'y a pas eu de meilleur jour pour l'humanité que le jour où la Torah lui a été donnée, car c'est la clé pour la vie éternelle et entière. C'est le moyen d'émerger du degré de l'animal pour passer au degré de l'Adam, l'homme, être similaire au Créateur. Et véritablement, nous ne savons pas comment l'apprécier. La force de la Torah, c'est comme si on donnait à un petit enfant une pièce d'or et il va jouer avec comme si c'était n'importe quel truc rond et de métal. Et c'est comme ça que nous sommes, mais lentement, nous allons atteindre l'unicité, la force et toute la merveille qui s'y trouve. Quelle est la préparation pour recevoir la Torah dans le travail? Nos sages ont dit, en ce qui concerne la préparation qui était là au moment du don de la Torah, qu'il y avait la question du royaume des prêtres et la mitzvah de la limitation et la question de l'abstention. C'était pour le grand public. Il y a des gens qui observent la Torah et les mitzvot en général, c'est-à-dire seulement en pratique, c'est-à-dire qu'ils supposent que le Créateur nous a ordonné d'observer la Torah et les mitzvot et en échange de lui obéir, il nous récompensera pour le travail ou l'abandon de nombreuses choses pour que le corps désire. C'est un grand effort pour nous de ne pas obéir à ce que le corps demande, mais nous essayons d'observer la voie du Créateur, c'est-à-dire ce que le Créateur veut. C'est-à-dire que nous annulons notre volonté devant la volonté du Créateur. En retour, il nous récompensera en ce monde et dans le monde à venir, comme il a été dit, « Heureux êtes-vous en ce monde et heureux êtes-vous dans le monde à venir. » C'est le travail du grand public. C'est comme ça que les gens pensent, précise Rav, et c'est comme ça qu'ils observent la Torah et les mitzvot, ce qui est écrit, et c'est comme ça qu'ils vivent, avec l'espoir qu'ils auront un certain mérite dans ce monde et dans le monde à venir, et qu'il vaut ainsi la peine de vivre et d'observer la Torah. Oui, quelqu'un avait une question? Je voulais demander comment écouter maintenant lorsque tout le monde est différent dans sa façon de penser. Comment chacun d'entre nous, dit Rav, à partir de ses carences, nous entend et le lecteur, il est comme celui qui parle et il apparaît et il fait des annonces. Et nous, il nous faut essayer de voir ces mots, chacun, selon leurs carences. Il dit ici que le travail de tout le monde, lorsqu'ils observent ceux qui croient par exemple à la récompense et à la punition, observent la Torah et comme il est écrit qu'une personne doit observer et être obéissant et ne pas faire de mauvaises actions. Et alors ils ont peur de la transgression ou du péché parce qu'il y aura probablement une punition par la suite. Et ce sont des gens qui veulent être bons D'après ce qui est écrit, alors il est écrit ne volez pas, alors il ne vole pas, et ainsi de suite. Et ce sont des gens qui veulent observer la Torah et les mitzvot pour recevoir une récompense. Mais lorsqu'on en vient à la reconnaissance que nous travaillons en l'olishma, comme le Rambam l'écrit, que les enfants et les femmes doivent apprendre lentement, mais ça dépend, dit Rav, de quelle manière nous parlons de l'ishma et de l'olishma. Tu comprends, ça dépend. Le Rabash dirait qu'une fois il est allé aux États-Unis et il est allé visiter un rabbi de Lubavitch et ils ont parlé, mais ils n'avaient rien à dire parce que le rabbi Lubavitch était très intelligent et il y avait aussi une culture générale très étendue et nous pouvions voir d'après ses écrits à quel point c'était au-dessus de nous tout ça. Alors il a demandé au Rabash, probablement qu'il y avait des étudiants qui étudiaient l'Ishma, et il a dit oui, disons que l'étage sous nous, il y a un séminaire, une yeshiva, et disons que à l'âge de 16 ou 17 ans, ils étudient l'Ishma. Tu comprends? Alors, il y a ceci et cela. Mais le fait est, ici, nous parlons d'observer la Torah et les mitzvot à partir d'une récompense. Et ça a à voir avec la culture générale, les croyances populaires. Demande à ton voisin pourquoi il fait tout ça. Bien sûr que ce monde, le monde à venir, la récompense, la punition, c'est écrit dans la Torah et c'est ce qu'on lui a appris. Oui, mais lorsque tu étais assis avec le rabbin, nous disions que la foi du rabbi, des rabbins de Lubavitch, mais qu'est-ce que le rabbin lui en pensait de tout ça? Non, ce n'est pas ce que j'essaie de dire, c'est-à-dire que les définitions de ce qu'est l'ishma sont plurielles. Mais ici, nous n'en parlons pas du tout. On parle de l'observance de la Torah et des mitzvot à partir de la récompense et de la punition. J'ai vu la récompense et j'ai peur de la punition. C'est pourquoi j'observe ce qui est écrit. Oui, c'est clair pour nous, mais la récompense et la punition, c'est quoi l'ishma? Il pourrait... par conséquent, il est dit que c'est le travail du public en général. Alors, nous voyons qu'ici, il y a du travail général, pour le public en général. Il y a les garçons qui étudient dans les séminaires, probablement pas que ça. Et alors là, lui, il disait que non, ils sont prêts à l'âge de 16 ou à peu près, ils sont prêts à apprendre l'Ishma. D'autres questions? C'est l'analogie du fils qui regarde le père et qui fait les mêmes actions. Par exemple, s'il le voit travailler avec un marteau, et alors il fait les actions du père. Et il y a une phrase qui dit que si tu copies le père, quel est le problème avec mimer les actions du Rav qui nous enseigne et sans aucune... pas de me comporter d'une certaine façon, mais où en arriver avec l'équivalence de forme avec la Torah? Le problème est simple, dit Rav, parce qu'il y a une connexion entre ce que tu imites et l'expert qui est avec toi sur un degré, et là tu essaies de copier ce que tu vois, et il n'y a pas de problème avec tes actions et son esprit, car tes actions, en les faisant, tu vas aussi saisir son esprit qui est dans le même niveau et le même monde. Mais si tu es avec ton professeur sur deux mondes, alors ça ne t'aidera pas. Il faut que tu t'élèves à son monde. Et là, tu peux l'imiter. Oui, mais en termes de travail, comment c'est appelé de ne pas mimer les actions dans le même monde, mais de s'élever? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de travail? Mais c'est afin de donner, dit Rav, de faire des actions afin de donner. Mais l'action, je veux travailler comme tu le fais, j'obtiens des commandements et qu'est-ce que ça veut dire que l'inférieur veut être rempli pour devenir un disciple sage? C'est de lire ce que le rabbache a écrit dans les écrits sociaux et de planter tout ça, d'implémenter tout ça dans la société. Et c'est tout, je n'ai rien d'autre à ajouter. Et puis, il y a le travail des individus. Ils veulent observer la Torah et les mitzvot individuellement, c'est-à-dire qu'ils ne se soucient pas de ce que fait le grand public. Ils veulent savoir pourquoi le Créateur nous a ordonné d'observer la Torah et les mitzvot. Pour quel besoin? Pourquoi? Demande Rav. Est-ce que le Créateur a besoin de nous? Est-ce qu'il nous a donné en fait toutes sortes d'actions que nous pourrions entreprendre? Et a-t-il besoin de ce travail? A-t-il fait un jeu ici? Et tant que nous serons occupés avec tout ça ou que nous faisons cela, il va nous donner une récompense. Pourquoi nous donnerait-il une récompense sans que ce soit pour sans aucun effort? C'est quoi le but de cette Torah et de ces mitzvot? Est-il carencé, ayant besoin de quelqu'un pour lui faire une faveur et observer la Torah et ses mitzvot? Au contraire, ce doit être que la Torah et les mitzvot qu'il nous a donnés sont pour notre bien. Puis, il commence à penser et à prêter attention. Quel bénéfice en résultera-t-il pour les êtres créés s'ils observent la Torah et les mitzvot? C'est-à-dire ce qu'ils perdent en n'observant pas et ce qu'ils gagnent en observant ce que le Créateur nous a commandé. Et c'est ça la question, dit Rav. Je ne peux pas croire qu'il y a un grand créateur qui est au-dessus de tout ce que je peux imaginer et dépeindre, m'a donné des actions à faire et pourquoi? Et quoi, ça va lui apporter du bien et moi, qu'est-ce que je vais en gagner de ces actions? Mais où est mon profit? C'est-à-dire de faire des actions avec mes mains, mes pieds, ma bouche, toutes sortes de tout ce qui est écrit dans Shalmoen Arour, et de faire des actions et qu'est-ce que je fais ce faisant? Est-ce que je corrige le monde? Est-ce que je fais des corrections et dans l'acte de la création? Je me souviens que j'ai commencé à aller aux leçons, des leçons de Torah, et j'ai appris pendant deux mois d'affilée, et comment changer les appels. Après tout, il est interdit pendant le Shabbat, mais comment faire en sorte que ce soit permis? Pendant deux mois, j'ai vu ça comme un seul grand appel. Mais ce qui est écrit, j'ai demandé pourquoi chaque jour, quand j'y allais, pourquoi nous apprenons cela, pourquoi nous apprenons ceci? Mais pour l'amour d'apprendre la Torah. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mais on fait ce qui est écrit. Et alors, il n'y a pas à s'étonner que je me sois enfui. C'est ce que nos sages ont dit, prêtez attention à une petite mitzvah comme à une grande mitzvah, car vous ne connaissez pas la récompense pour la mitzvah, et considérez le goût d'une mitzvah par rapport à sa récompense, et la récompense pour une transgression. la joie que vous éprouvez dans la transgression par rapport à son coût. Par conséquent, quand ils commencent à penser à l'avantage d'observer la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire qui en profite, ils voient ce que nos sages ont dit. Soyez comme des esclaves au service du Rav, non pour recevoir une récompense, et la peur du ciel sera sur vous. Cela signifie que le fait que nous ne devons pas travailler pour recevoir une récompense signifie que l'observance de la Torah et des mitzvot n'est pas pour le Créateur, qu'il doit être servi. Si c'était vrai et qu'il avait besoin de notre travail, il devrait certainement payer, tout comme nous travaillons pour quelqu'un en ce monde. Si quelqu'un a besoin du travail d'un employé, il paie certainement, car c'est ainsi que le monde fonctionne. Puisque nos sages ont dit de ne pas travailler pour être récompensés, la raison doit en être que ce travail est pour nous, c'est-à-dire pour nous. C'est-à-dire pour notre bien. Alors, comment pouvons-nous dire qu'une personne travaille pour son propre bien? C'est-à-dire qu'elle a besoin du travail, mais que quelqu'un nous a seulement donné le plan de travail pour que nous sachions comment travailler pour qu'il en résulte un produit complet que nous apprécierons. Comment peut-on dire que ce travail qu'il lui a donné, que celui qui lui a donné le plan de travail devrait aussi la payer pour son travail? Dans notre monde, nous voyons le contraire. Une personne doit payer pour le plan de travail qui lui est donné. Et celui qui a donné le plan de travail ne paie pas la personne pour travailler selon le plan de travail qu'elle a reçu. C'est semblable à celui qui veut construire une maison. Il s'adresse à un ingénieur pour établir un plan de travail pour lui. Alors, qui doit payer? Est-ce l'ingénieur à la personne qui a reçu le plan de travail ou la personne paie-t-elle l'ingénieur pour lui donner un plan de travail grâce auquel elle peut se construire une maison? De toute évidence, la personne paie l'ingénieur. Selon ce qui précède, il est clair que le Créateur nous a donné la Torah et les mitzvot pour nous corriger, de sorte que nous ayons une structure de kedusha, sainteté. Par conséquent, qui doit payer pour le plan? C'est certainement nous, car sans la Torah et les mitzvot, qui est notre plan pour une structure de kedusha, il serait absolument impossible de nous construire une structure de kedusha. C'est ainsi que nos sages disaient, « Sans mon alliance jour et nuit, je ne prescrirai pas les ordonnances du ciel et de la terre. » C'est-à-dire que sans la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire les ordonnances du ciel et de la terre, qui est la structure du monde, il ne pourrait pas exister. Mais au contraire, si nous construisons le monde selon la Torah, le monde peut exister. De là, nous comprenons que bien que nous n'ayons rien pour payer le Créateur pour nous avoir donné le plan de la Torah et des mitzvot, et nous ne pouvons que l'en remercier et le louer, nous ne devrions pas demander une récompense en retour d'avoir observé la Torah et les mitzvot, qu'il devrait payer pour observer la Torah et les mitzvot, ce qui signifie utiliser son plan pour nous construire la maison. Les gens qui comprennent cela sont considérés comme marchands dans l'œuvre du Créateur sur le chemin des individus. Ils ont une perspective différente sur la question de l'observance de la Torah et des mitzvot par rapport à la façon dont le grand public comprend l'observance de la Torah et des mitzvot, que le Créateur devrait les payer pour suivre les lois de la Torah, qui est son plan de travail. Ils comprennent que le Créateur veut qu'ils suivent le plan qu'il leur a donné et que c'est pour le bien du Créateur. Par conséquent, ils devraient payer pour ce travail qui consiste à suivre son plan. C'est ce que disent nos sages. Une autre interprétation, Amon est un artisan, Ouman. La Torah dit, J'étais l'outil du travail du Créateur. Quand un roi de chair et de sang construit un palais, il le construit non pas avec ses propres compétences, mais avec celles d'un architecte. Et l'architecte ne le construit pas avec sa propre tête, mais utilise des plans et des schémas qui sont des livres contenant divers schémas de bâtiments, grâce auxquels l'artisan fait un plan pour la construction du palais. Alors Dieu, regardant dans la Torah, et créa le monde. Nous devons comprendre ce que cela nous apprend sur la manière de travailler et comment il y a eu la création du monde, que le Créateur a regardé dans la Torah, ce qui signifie que la Torah est le plan par lequel il a créé le monde. On sait que le but de la création était de faire du bien à ses créations. C'était la raison de la création du monde. Pour cette raison, le Créateur a créé chez les créatures une envie et un désir ardent de recevoir des plaisirs. Et sans plaisir, il est impossible d'exister. Comme nous le voyons, celui qui se suicide, c'est parce qu'il ne voit pas comment il aura du plaisir ou que ce soit maintenant, ce qu'on appelle le présent, et il ne voit pas non plus dans l'avenir et où il pourra avoir du plaisir. Au lieu de cela, il voit que le monde s'est assombri sur lui et ne brille pas pour lui. Alors il n'a pas d'autre choix que de se suicider parce qu'il pense qu'ainsi, il échappera au tourment. Pour cette raison, le fait qu'une personne veuille toujours recevoir des plaisirs est la nature que le Créateur a créée, que chaque être créé aspire seulement à recevoir des plaisirs. Nous devons savoir que tout ce que nous appelons le mauvais penchant n'est que cette qualité appelée désir de recevoir du plaisir pour satisfaire la convoitise. La raison pour laquelle le désir de recevoir pour soi est appelé mauvais penchant est expliquée en ce qui concerne la correction de la création qui a été faite. C'est-à-dire que quand la créature reçoit du Créateur, il y a une disparité de forme en cela, ce qui fait qu'une personne a honte de recevoir de son ami pour elle-même. Pour cette raison, une personne a honte de manger le pain de la honte. Il s'ensuit que si une personne recevait le plaisir et le délice dans les récipients de réception, elle se sentirait mal en recevant l'abondance. Il y a donc là une correction que tant que l'on ne révoque pas l'équilibre du désir de recevoir pour soi, on ne peut recevoir plaisir et délice. Il s'ensuit que le seul obstacle à la réception du plaisir et du délice est le désir de recevoir pour soi. C'est pourquoi ce désir de recevoir est le mauvais penchant. Mais comment le révoquer? Comment, comme il est écrit, annule ta volonté devant sa volonté. Il est la Torah, comme l'ont dit nos sages. Le Créateur a dit, j'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah comme une épice. Cela signifie que le Créateur dit, le fait que j'ai créé le désir de recevoir du plaisir et que c'est la nature de la création, comme il a été dit que la création est appelée existence à partir de l'absence, signifie qu'une chose nouvelle a été créé ici. Cela a été dit à propos de ce désir de recevoir. Le Créateur a dit, « J'ai créé la Torah comme une épice », c'est-à-dire que la lumière qu'elle contient le corrige. Par conséquent, si la Torah n'existait pas, il n'y aurait pas eu d'existence pour le monde, parce qu'en raison de la dissimulation et la couverture due à la correction du monde, les créatures auraient dû rester dans les ténèbres, sans lumière. Naturellement, il n'y aurait pas d'existence pour le monde. C'est le sens de la recherche du Créateur dans la Torah, ce qui signifie que la Torah est le plan de travail. C'est-à-dire que, selon ce plan, le monde sera construit par la Torah et il y aura existence pour le monde. C'est ce qu'on appelle « j'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah comme une épice ».
«
Au sujet de l'étude de la Torah, nos sages ont dit, il ne faut pas donner un mot de la Torah à un idolâtre, comme il a été dit, il ne l'a fait pour aucune nation et ne leur a pas fait connaître les lois. Nous devrions comprendre la signification des idolâtres dans ce travail. Dans le travail, nous apprenons tout dans un seul corps, comme il est écrit dans le Zohar, que l'homme est un petit monde. Ainsi que sont les idolâtres dans le travail. Et qu'est-ce qu'Israël dans le travail? Nous avons déjà dit qu'Israël veut dire qu'il veut que toutes ses actions soient pour le bien du Créateur et non pour le sien. C'est ce qu'on appelle Yasharkel, directement au Créateur, ce qui signifie que toutes ses actions sont directement au Créateur. L'idolâtre est tout le contraire. Toutes ses actions sont pour son propre bien, c'est-à-dire qu'il veut deux autorités. Cela signifie qu'il veut extraire le plaisir et le délice de l'autorité du Créateur dans sa propre autorité. En d'autres mots, il veut qu'il y reste deux autorités dans le monde, l'autorité du Créateur et sa propre autorité. C'est ce qu'on appelle le culte des idoles, qui est un travail qui nous est étranger. Israël signifie qu'il travaille pour le Créateur, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un ouvrier du Créateur. Dans les actions, dont les actions sont toutes pour le Créateur. Mais si une personne travaille pour son propre bien et non pour le bien du Créateur, ceci est considéré comme son travail étant un culte d'idole et non un travail pour le Créateur. Il s'ensuit que toute la différence entre les adorateurs d'idoles et Israël dans le travail est qu'Israël signifie qu'il veut travailler pour le Créateur, et bien qu'il soit toujours asservi au mauvais penchant et ne puisse le maîtriser, car il suit le chemin qui mène au travail pour le Créateur, il est déjà considéré comme Israël, car il souhaite atteindre ce degré. Mais quand une personne veut travailler dans un État d'Israël, ce que nous disions être considéré comme travaillant dans l'État d'individu, alors tout ce qui est mauvais chez une personne est contre elle. En d'autres termes, avant de décider d'y aller en tant qu'Israël et que son travail soit à la manière du grand public, il regardait ce qu'il faisait et croyait que pour chacun, il recevrait une récompense de ce monde et une récompense de l'autre monde. Il lui était facile de faire de bonnes œuvres.
ושתישאר רק רשות אחת בעולם, שהוא רשותו של הקדוש ברוך הוא, אז הרצון לקבל לעצמו מתנגד לזה. ואז באה לו שאלת הרשע ששואל, מה העבודה הזאת לכם? זה שאתם רוצים לעבוד לא לתועל את עצמכם, מה יהיה לכם מזה? ועל זה אין שום תשובה, אלא כמו שכתוב, הקהה שיניו. נמצא שאז אדם צריך לעזרה שתהיה לו היכולת לצאת משליטת היצר הרע, אז אין לו עצה אחרת אלא שהקדוש ברוך הוא אמר, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא שעתה הוא הזמן האמיתי שאדם נצרך לעזרת תורה שתעזור לו לצאת משליטת היצר הרע. ובאמור יוצא, מה שאדם צריך להכין בעצמו לקבלת התורה, ואומץ אומר צורך להתורה, שצורך זה נקרא כלי, ואי אפשר להיות מילוי בלי חיסרון, וזה דומה שאם אדם ישאל את חברו בזמן שהוא מזמין אותו שיבוא בערב לסעודה שהוא הכין בעדו, מה אני צריך להכין את עצמי שאני אוכל לאכול אצלך? בטח הוא יגיד לו שתיזהר שאל תאכל בבית מטרם שאתה תבוא אליי, כי אחרת אתה לא תוכל לאכול אצלי. כמו כן, בכדי לקבל את התורה...
Mais maintenant qu'il veut travailler pour annuler sa propre autorité et ne laisser qu'une seule autorité dans le monde, l'autorité du Créateur, le désir de recevoir pour lui-même s'oppose à cela. Puis vient la question de l'impie qui demande « Qu'est-ce que c'est ton travail? Le fait que tu ne veuilles pas travailler pour ton propre bien, qu'est-ce que tu vas en tirer? » Il n'y a pas de réponse à cela, mais comme il est écrit « Émousse ses dents ». Il s'ensuit qu'une personne a besoin d'aide pour pouvoir sortir du contrôle du mauvais penchant. À ce moment-là, son seul choix est ce que le Créateur a dit. J'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah comme une épice. Il s'ensuit que c'est maintenant le moment réel où une personne a besoin de l'aide de la Torah pour échapper au contrôle du mauvais penchant. Selon ce qui précède, que doit-on préparer en soi pour recevoir la Torah? C'est le besoin de la Torah et un besoin est appelé un kli récipient. Il ne peut y avoir de remplissage sans manque. C'est comme si quelqu'un demandait à son ami, quand il l'invite à venir le soir pour un repas qu'il lui a préparé, « Comment dois-je me préparer à manger chez toi? » Il lui dira probablement, « Fais attention à ne pas manger à la maison avant de venir chez moi, parce que tu ne pourras pas manger chez moi. » De même, pour recevoir la Torah, une personne doit se préparer à avoir un besoin appelé kli que la Torah peut combler. Cela s'applique spécialement lorsqu'il veut travailler pour le Créateur, car alors, il rencontre la résistance du corps qui crie « Qu'est-ce que ce travail que tu as? » Mais une personne croit aux sages qui ont dit que seule la Torah peut délivrer une personne du contrôle du mauvais penchant. Cela ne peut être dit que de ceux qui veulent être Israël, c'est-à-dire Yacharkel. Ils voient que le mauvais penchant ne les laisse pas sortir de leur contrôle et alors ils ont besoin de recevoir la Torah pour que la lumière de la Torah les corrige. Maintenant, nous pouvons comprendre ce que nos sages ont dit. Un mot de la Torah ne doit pas être donné à un idolâtre, comme il a été dit, il ne l'a fait pour aucune nation et ne leur a pas fait connaître les lois, car ils n'ont pas besoin de la Torah. Celui qui fait un travail qui nous est étranger, c'est-à-dire pour lui-même, peut vivre sans la Torah, car il n'a pas besoin de l'aide de la Torah. Seul Israël, celui qui veut travailler pour le Créateur, a besoin de la lumière, car la lumière en elle la corrige, c'est-à-dire qu'il est impossible de vaincre le mal en lui sans la Torah. C'est ainsi que nous pouvons interpréter ce que nos sages disaient. La Torah n'existe que dans celui qui se met à mort au-dessus d'elle. Il faut comprendre le mot « existe ». Qu'est-ce que cela nous dit? Nous devons interpréter cela selon ce que nos sages disaient. Le Créateur a dit « J'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah comme une épice », c'est-à-dire que la Torah doit être une épice. Et qu'en est-il donc, puisqu'il n'y Il n'y a pas de lumière sans un kli, il n'y a pas de remplissage sans faute. Pour cette raison, il disait que ceux qui veulent se mettre à mort, c'est-à-dire qui veulent mettre à mort le désir de recevoir pour leur propre bien et qui veulent tout faire pour le bien du Créateur, voient qu'ils ne peuvent le faire seuls. Le Créateur leur a dit « J'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah comme une épice ». Mais chez ceux qui ne veulent pas s'annuler eux-mêmes et veulent qu'il y ait deux autorités, ce qui signifie que l'autorité de l'homme restera et que le Créateur leur donnera, et eux, ils extrairont le plaisir et la joie à sa disposition pour les transmettre aux récepteurs. La Torah n'existe pas, c'est-à-dire que la Torah ne devient pas une épice pour eux, car ils ne veulent pas qu'elle soit une épice. Et s'il n'y a pas de désir et de besoin, qui sont les kélim, il n'y a pas de lumière. Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi il est interdit d'enseigner la Torah aux idolâtres dans le travail. Cela signifie que celui qui pratique un travail qui nous est étranger, c'est-à-dire qui travaille pour lui-même, puisque la Torah et pour le mauvais penchant, pour celui qui veut le révoquer, mais ne peut le faire, il a été dit de lui, j'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah comme une épice. Mais celui qui veut travailler pour son propre bien, qui est le culte des idoles, n'a pas besoin de la Torah. Par conséquent, s'il apprend la Torah n'existera pas en lui en termes de ce que la Torah est destinée à donner. Alors, quelle est la préparation pour la réception de la Torah? Le besoin de l'aide de la Torah. Et cela se fait en voulant que tout soit pour le bien du Créateur. Alors, nous avons besoin de la Torah pour recevoir son aide.
Shilot.
Des questions, demande Rav. Et c'est tout? Oui, là. Alors, il s'avère que je suis inclus dans Israël et les idolâtres, tout cela. Est-ce que tu demandes pour toi-même ou en général? Une personne qui est sur le chemin, disons. Une personne, dit Rav, est mesurée selon ses manques. Et pourquoi as-tu un manque? Et suivant cela, on peut dire, mais il me semble que si je suis inclus dans Yashar Kel, je vais prendre l'exemple des appels, je sais comment travailler avec eux, et je me dis que c'est pour le Créateur. Tu ne demandes pas de questions parce qu'il est clair pour toi que dans l'étendue où tu travailles, tu étudies davantage, tu as une plus grande récompense. Mais d'autre part, je ne cesse de me surprendre et que je vois qu'il y a quelque chose qui en ce qui a trait à le travail dans la société, c'est un manque. Mais quelle est la récompense, demande Rav? Mais je veux être bon, je veux en arriver quelque part, ça c'est une récompense. Mais que veux-tu en obtenir quelque part? Où est-ce quelque part? Mais que je veux vraiment me corriger, m'élever au-dessus du désir de recevoir et construire quelque chose pour moi-même qui pourrait contribuer à la société. Et il y a d'autres personnes où j'aimerais être plus riche, plus intelligent et je ne sais pas. D'accord, alors c'est encore comme ça, ce que nous appelons entre le ciel et la terre, dit Rav, mais ça aussi c'est bien. Tu fais des clarifications en chemin, alors il le dit de cette façon. Une personne qui, suivant ses manques, est attirée vers une récompense qui est comprise pour lui en comme étant ce monde et dans le monde à venir, c'est les commandements de ceux qui les apprennent et plus ils observent et plus ils travaillent. Et il y en a qui veulent révéler la force supérieure, le Créateur, et c'est de là d'où ils partent. Et il est considéré qu'ils ont un point dans le cœur et qu'ils désirent retourner à sa racine. Et ensuite, ils veulent comprendre, savoir toute la création, pourquoi ce qui arrive ici et dans quelle réalité nous vivons. Qui a-t-il au-dessus de nous, etc. Et ça, c'est une carence. Et si c'est chez une personne, elle l'a, et sinon, elle ne l'a pas. Et ça aussi, ça doit être clarifié. Ce n'est pas complet. Et lorsque nous nous mettons à étudier, et son désir change. Nous devenons, la personne devient de plus en plus discernée, c'est-à-dire qu'elle se met déjà à penser au but qui est plus orienté vers la force supérieure et le Créateur, tandis que une personne qui ne désire pas le Créateur, elle désire la récompense. Plus tu me donnes de récompenses, dis-moi de faire ceci, je vais le faire, ceci et cela, je vais le faire aussi, tant qu'il y a une récompense. Mais le fait est que, quelle est la récompense? Est-ce que c'est pour ceux qui veulent recevoir une récompense en ce monde, pour que tout soit bon, qu'ils réussissent, qu'ils gagnent, etc., et aussi dans le monde à venir, je suis une personne, après tout, je vais vivre et mourir, alors je devrais avoir quelque chose, et ou encore, il y a ceux qui comprennent que la récompense, ils doivent la recevoir ici et maintenant, en ce monde. Ils doivent atteindre le Créateur. Et ça, c'est la récompense. Et c'est ce qui arrive, qu'il faut atteindre le Créateur, c'est-à-dire qu'il faut être dans des qualités comme lui, suivant l'équivalence de forme. Et là, nous comprenons qu'ici, c'est là où nous avons besoin de la Torah, que la Torah va le corriger et faire quelque chose, va le rendre similaire au Créateur. D'accord? La même question dans une direction différente. Une personne est sur le chemin, n'a-t-elle pas une certaine transition, et ce n'est pas immédiatement dans la seule autorité unique du Créateur? Il y a plusieurs choses ici, dit Rav. Il y a plusieurs manques qui sont révélés et est-ce qu'une personne devrait comprendre, que ce soit du côté de la science ou du côté de l'atteinte, mais le manque, il est clair que ce manque n'est pas pour observer les mitzvot, et ça, c'est un problème. Le fait est que je me souviens à Réhovet, lorsque j'ai commencé à étudier la sagesse de la Kabbale, ils m'ont dit, c'est ça, celui qui étudie la sagesse de la Kabbale va s'allumer, s'embraser pendant le Shabbat. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont des personnes religieuses, simplement religieuses, et c'est ce qu'elles disent, c'est qu'il y a de telles rumeurs que les kabbalistes manquent de respect vis-à-vis des mitzvot physiques et corporelles, ou qui veulent avertir le public en général de ne pas s'approcher de la sagesse de la Kabbale, et peut-être que c'est vrai. Mais moi, je pose une question sur la définition que tu nous as donnée, Israël, et puis les idolâtres. Et les idolâtres ont deux autorités afin de recevoir et... Oui, il y a différents types. Il y a ce monde et dans le monde à venir, dira-t-on, où c'est une récompense en ce monde et de connaître le Créateur. Mais encore, c'est sur le chemin, une personne doit clarifier c'est quoi exactement le désir en lui. Est-ce que il nettoie tout le point dans le cœur de ce qu'il y a autour de lui? Alors, y a-t-il un travail qu'on peut faire en ce qui a trait à la résistance que nous avons pour cette correction, ou est-ce que nous allons toujours résister à la correction? Mais chaque fois, et même toujours plus, dit Rav. Mais pourquoi est-ce que ça te dérange? Laisse-le résister. Oui, d'accord, je comprends, mais... Avec cela, tu reçois des forces. Contre la résistance, ces forces? Oui. Alors, c'est quoi l'épice? La Torah, l'étude, le groupe, l'environnement. C'est tout. Et grâce à quoi tu vas recevoir la lumière? Tout ça ensemble, ce sont tous les moyens qui vont nous apporter la lumière. Mais... c'est quoi exactement la Torah qui nous est donnée? Mais c'est la force qui laisse une personne composer avec le mauvais penchant, mais ce n'est pas de travailler contre... est-ce que ça n'élève pas le désir de recevoir? Non. Est-ce que ça donne des forces pour opérer contre le désir de recevoir? Oui. Pour que tu aies deux lignes, dit Rav, et dans la ligne du milieu, tu seras toujours capable d'avancer. Et comment avancer sans le mauvais penchant qui devient plus grand? Comment avancer? Comment s'élever à la montagne du Créateur, au mont Sinaï, qui est tout le désir de recevoir qui doit être révélé? Et toi, il te faut escalader et grimper cette montagne. Et lorsque tu es vraiment au-dessus de tout ton désir de recevoir, là, tu as atteint l'adhésion au Créateur. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'avancer? Et d'avancer, ça veut dire que sur le nouveau désir de recevoir qui est révélé, il nous faut être reconnaissants et nous élever au-dessus dans la foi, au-dessus de la raison, dans le don en dépit du penchant vers la réception. Alors, c'est ce qui arrive au milieu entre les deux lignes. Oui. Alors, l'avancement, c'est toujours au-dessus de la raison, la force dans la Torah, et là, on peut s'élever au-dessus de la raison. Oui, tu ne peux sans y arriver sans l'en haut. Et la personne qui s'enfuit d'ici et qui a une occasion d'aller au-dessus de la raison et qui ne le fait pas, comme ça, alors Ils abandonnent, ils en sont incapables. Et qui en est capable? Mais personne. Tout ce qu'il nous faut, c'est de s'intégrer dans la société toujours davantage. Et l'essentiel, c'est la patience. Un peu plus et un peu plus et un peu plus. Comme Rabbi Akiva. Et s'en tenir à la planque et de baisser la tête. Et il n'y a que de cette façon qu'on peut y arriver. Et de s'enfuir, nous en sommes, nous pouvons le faire, ça peut être pendant quelques années, ça peut être une incarnation entière, et ensuite tu reviens. Oui, Gil. Question de Fabricio d'Argentine. La récompense, ça dépend de l'effort d'une personne ou de l'inclination du Créateur? L'inclination, la volonté du Créateur, je ne comprends pas, dit Rav. Est-ce que c'est l'effort d'une personne ou la volonté du Créateur? La récompense dépend de l'effort d'une personne, dit Rav, et la récompense dépend de l'effort d'une personne qui s'écrie vers le Créateur. Et c'est tout. L'effort est dans le cri. Et c'est la difficulté de se trier soi-même, de s'arranger de la façon directe et la meilleure possible. Ça, c'est tout l'effort. Tout le reste, ça vient d'en haut. J'aimerais demander, il y a une curiosité pour la récompense. La curiosité au début, dit Rav, c'est bien, mais plus tard, ça devient une nécessité de travailler dans le groupe pour atteindre. Alors, une personne entre vraiment dans le véritable travail. Elle sait qu'elle doit y aller et faire, qu'elle doit se courber, qu'elle doit se connecter, et ainsi de suite. Alors, au début, il y a, oui, une fascination, une curiosité. Ça donne l'impulsion à une personne d'avancer. Mais pourquoi donne-lui le micro? Pourquoi tu ne lui redonnes pas? Mais est-ce qu'une personne avance lorsque le mal est révélé en elle, mais la révélation de la vérité, ça lui donne de la joie? Est-ce que la joie s'accroît aussi? Certainement, dit Rav. Et c'est ce que nous appelons la joie d'une mitzvah. Et sinon, comment pourrais-je être heureux? Que chaque jour, j'entre toujours plus dans ce plan, ce programme qui s'appelle la Torah. D'accord? Ah oui, de ce côté, oui, Eyal. Rav, pendant le Zoom, nous avons lu des extraits sur les zéros absolus et il y avait un extrait vraiment merveilleux que si je ne ressens pas la complétude dans mon travail, je me souviens pas exactement des mots, mais c'est parce que ça donne du contentement au Créateur, c'est pour ça que je me sens complet. Oui, oui, dit Rav, pas pour d'après mes propres calculs. Alors j'ai deux questions à ce propos. Alors, si ce n'est pas pour mon propre bien, comment obtenir l'adoucissement pour le fait que je ne me sens pas très bien? Tu sais, la douceur, c'est comme il y a une excuse que j'apporte du contentement au Créateur. Je ne comprends pas l'état encore. Une personne ressent un état de plénitude dans le travail, elle ne se sent pas bien, mais elle continue de travailler. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne s'en réjouit pas, dit Rav? Mais elle veut faire quelque chose d'autre. Une fois qu'elle l'a reçu, elle veut faire autre chose. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas de plaisir qu'il retire de tout ça, demande Rav, du fait que il n'a pas l'humeur de le faire, de s'y engager, qu'il y a des résistances? Mais quoi, il devrait se réjouir d'avoir des résistances? Oui. Ah, mais ça, c'est une question à laquelle je n'avais jamais pensé. Mais pourquoi ne penses-tu pas que c'est considéré... d'une façon professionnelle que l'opérateur a des résistances vis-à-vis du travail et il est satisfait parce que cette résistance montre et témoigne. Elle lui montre qu'il va contre son mauvais penchant de la bonne façon. Alors, c'est ça l'adoucissement, l'atténuation? Il ressent une douceur du fait que ça va à l'encontre, parce que c'est un signe qui va dans la bonne direction. Mais quoi faire pour une personne qui n'est pas dans l'état que tu décris, quoi faire? Mais il nous faut essayer d'être dans cela et de s'en réjouir, de vraiment s'en réjouir. Et pourquoi pas, dis-moi, lorsque je vois que c'est à l'encontre et que je n'ai pas la force de bouger et que mon moi souffre ici, et après tout, c'est clair pour moi que je suis dans la bonne direction. Et je n'avais pas pensé à cela. Mais non, ne pense pas, entre avec tes sentiments, ne va pas penser. Oui, David, est-ce qu'on peut être réjoui au moment où la joie vient après? Mais quand ça arrive, dit Rav, et pourquoi? Parce qu'il est certain que si tu te tiens là-dessus, tu t'apprêtes à recevoir la récompense. Que la récompense, c'est lorsque tu ressens que tu te rapproches du Créateur. Essaie, ce point est très important.
Oui,
le pleur dont il parlait auparavant, ça c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Ça vient quand ça vient et je n'ai rien à faire avec cela. Mais comment essayer, pourrais-je essayer d'initier ce cri? Mais quel cri? Mais le cri dont tu parlais auparavant au Créateur. Mais tu ne peux pas simplement crier comme ça. C'est quoi? Ce serait un faux cri? Mais alors, que me faut-il faire dans la société? Mais ajoute au travail jusqu'à ce que tu aies, jusqu'à ce que les eaux s'élèvent à partir d'ici, et là, tu vas pleurer. Si tu te mets à pleurer sans besoin pour le cri, alors là, c'est très mal. D'accord? Merveilleux. Alors est parti, comme d'habitude. Comment est-ce qu'un étudiant ramène son rave de l'exil? Mais grâce à l'environnement, mais comment peut-il y arriver? En se courbant devant les amis et en voulant entendre d'eux parler de la grandeur du professeur. Mais j'ai entendu parler de la grandeur du professeur à mon niveau. Mais où je suis? Mais comment en tant que dizaine? Ça ne dépend pas de ton niveau, ça dépend de l'étendue où tu t'inclines devant les amis. Et c'est tout. Dans la mesure où tu t'annules devant eux, alors là, tant qu'ils en parlent, c'est multiplié, c'est doublé. Et suivant, à quel point tu te diminues devant eux, et qu'ils sont grands à tes yeux, et là, tu en viens à avoir un grand rave, et tu as la force de continuer. Ah, il y a des changements dans tes questions. Apprends de lui, Rachamim. Non. Il y a un grand problème. Moi, je le dis, prête attention à comment il pose ses questions et va plus droit au but. Il y a un moment où je suis éloigné dans le travail. C'est comme si avant j'étais dans la dvekoute et que tout travaillait en ma faveur. Et tout d'un coup, comment, quand je suis distant, c'est que je me déconnecte du Créateur? Oui. Et quelle est la connexion entre la Torah et le Zohar? Quoi, Cruz aux États-Unis ou en Sicile? Un des États-Unis. Quelle est la connexion entre le Zohar et la Torah? Est-ce que c'est une question de se corriger dans la dizaine? Chaque moyen qui nous apporte la Torah, dit Rav, ce n'est pas nécessairement le Pentateuch qui s'appelle la Torah, non. C'est-à-dire qu'il nous faut voir que tous les livres, tous ceux qui ont eu une atteinte ont écrit pour nous. Certainement que Moïse est le plus grand qui a eu une atteinte, mais il faut voir aussi que les sources que nous appelons aussi la Torah et qui ont la lumière qui corrige en elle et nous donnent sur nous davantage que la Torah de Moïse, le Pentateuque, même s'il est le plus grand. Mais parfois, tu sais, lorsque tu es déconnecté, c'est comme si tu lis parfois une encyclopédie pour les enfants. Qu'apprendra-t-il? Il y a des histoires qui sont plus près de lui, qui aura plus d'influence sur lui. Et c'est la même chose avec nous. Et par conséquent, Bala Sulam et Rabbah sont plus près de nous. Et de là, c'est de là où nous recevons davantage de lumière qui corrige. J'ai essayé d'autres sources et néanmoins, je vois qu'ils sont les plus bénéfiques, ceux qui nous donnent le plus. Et il y en a plus, bien sûr. Il y a des livres si magnifiques, Vachemesh, que Bala Sulam adorait, et il y a Ephraim, le drapeau du camp d'Ephraim, et la bannière du camp d'Ephraim, et le pilier dans le travail et le langage de la vérité et je les ai lus et je les ai dévorés, mais j'ai reçu une impression d'eux comme à partir de l'assidisme, pas véritablement de la kabbale, mais comme si c'était de la kabbale, mais d'une façon plus une façon différente. Alors, d'accord, les amis, il nous faut maintenant descendre. Allez en bas, Gershon, tout ce qui te reste maintenant, c'est un appétit pour manger. Ah, donne-lui le micro, donne-lui le micro. Quand tu nous dis « Soyons ensemble pour être récompensés avec la lumière qui corrige », que veux-tu dire pour nous? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Une personne est incluse dans son manque. Alors, que veux-tu dire d'être ensemble pour attirer la lumière qui corrige? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble? C'est de nous représenter pour nous-mêmes que nous sommes dans un cercle, dans le système qui inclut toute la réalité de tous les mondes, tout ce que le Créateur a créé. Et ce système est quelque chose d'unifié, un système unique, fermé. Et nous sommes là, et dans la mesure où nous sommes connectés entre nous, tout le système est nôtre. Il nous appartient. Et c'est tout.
Amen.